Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui nous embarque avec elle, sans langue de bois, sans tabou, dans son monde de femme, intellectuelle certes, mais également mère. Épouse qui va vivre la maladie d'un époux qui va devoir gérer des enfants et en même temps une carrière. Bref, ma femme d'aujourd'hui se livre à nous en toute transparence.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Yasmine Ben Amour, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Lala Yasmine ?
Ça va, merci. Merci beaucoup pour votre invitation.
C'est un plaisir de vous avoir. Alors, actuellement, vous êtes présidente de LCI Éducation Afrique. Vous êtes également directrice générale de HEM. Mais avant cela, vous avez eu une carrière dans le marketing et la finance. Et moi, ce qui m'interpelle encore plus, c'est qu'à 26 ans, vous aviez déjà votre doctorat.
Oui, c'est... même à 25.
Même à 25.
Parce qu'en fait, je l'ai rendu au mois de juin.
Ouais.
J'avais 25 ans. J'ai fêté mes 26 ans en août et je n'ai soutenu pour une question administrative qu'en septembre. Donc en réalité, je l'ai eu à 25 ans.
À 25 ans. Alors, justement, pourquoi est-ce que c'était important ou un concours de circonstances ? Est-ce que c'était important pour vous d'avoir votre doctorat aussi jeune ou bien c'était finalement juste un concours de circonstances ? Allez, maîtrise, licence, master, doctorat, le tout dans la foulée.
Honnêtement, quand j'ai commencé mes études, je ne pensais pas que j'allais aller jusqu'au doctorat. Donc j'ai fait des études de gestion en France, à Dauphine en particulier, et j'avais mon master, à l'époque ça s'appelait un DEA, en poche à l'âge de 22 ans. Et donc je me trouvais beaucoup trop jeune pour me lancer dans le monde du travail aussi jeune que ça. Et j'en ai discuté avec mes parents, ma mère en particulier. Il faut savoir que mes deux parents ont fait des doctorats, donc peut-être que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, sans m'en rendre compte. Et puis, ma mère m'a dit, écoute, tu es jeune, tu en es capable, ça te donnera toujours une corde supplémentaire à ton arc. C'est exactement comme ça qu'elle me l'a dit. Et donc, je me suis lancée. Et comme j'ai grandi avec un tableau où il y a écrit, où il y a écrit « Tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait ». C'était un petit tableau Hello Kitty à l'époque, qui était dans ma chambre. et donc je me suis dit « Bon, bah, tant qu'à faire, je vais me lancer là-dedans. »
Je vais bien le faire.
Et je vais bien le faire. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Vraiment, rien ne vient du hasard. Je ne suis ni plus intelligente, ni plus rien du tout que les autres. Je suis juste une bosseuse. Et donc, j'ai bossé pendant 3 ans et j'ai même travaillé à mi-temps, parce qu'il faut aussi gagner sa vie quand on fait une thèse. J'ai travaillé à mi-temps dans un centre de recherche qui n'avait rien à voir avec le mien ni avec mon sujet de thèse. Et donc, j'avais moitié du temps boulot et moitié du temps travail de ma thèse. Et j'étais la première de ma promo à soutenir. Voilà.
Et un travail de thèse, c'est vraiment un travail approfondi. C'est touché à plusieurs, même si on a une thèse précise, c'est touché vraiment au sujet avec une perspective 360. Donc, c'est pas rien quand même, avoir la moitié de son temps pour travailler sur ça. C'est pas beaucoup quand même.
Oui, c'est pas beaucoup effectivement, mais alors après, je veux pas être trop longue, mais effectivement, pour pouvoir finir un doctorat à temps, parce que c'est vraiment ça, les gens le finissent, mais le plus dur, c'est de le finir à temps.
Ouais.
Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des restrictions de temps légales. Il faut plusieurs facteurs clés, je dirais. Et pour être très rapide, le premier, c'est d'abord prendre un sujet qu'on aime, qui nous ressemble.
Exact.
Deuxièmement, un sujet dont on est sûr et ne pas avoir à le changer 6 mois plus tard, sinon vous perdez énormément de temps. Troisièmement, avoir un directeur de thèse avec qui on s'entend. Et puis quatrièmement, bosser et ne pas lâcher.
Et bosser.
Bosser, oui.
C'est un conseil que vous donnez justement à vos étudiants ?
Oui, exactement. C'est un conseil que je donne toujours parce que travailler est quelque chose qui est entre les mains de toutes et tous. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'ADN ou qu'on peut ne pas avoir la chance d'avoir ou comme quelqu'un qui aura un don et que l'autre ne l'a pas. Travailler, tout le monde peut le faire. Alors que si on dit « je suis un génie » ou « j'ai un don » ou autre chose, ça peut décourager. Là, N'importe qui peut travailler. Donc pour moi, c'est le facteur clé. Et d'ailleurs, mon credo dans la vie, c'est work hard, play hard.
Oui, ok. C'est vrai, parce que when we work hard, on a envie de play hard, justement,
oui,
pour équilibrer.
Hard, exactement. Et quand on work hard, on play hard avec plaisir.
Avec
on,
plaisir
on ne culpabilise pas.
Tout à fait, vous avez raison. Alors Yasmine, justement, vous avez obtenu votre doctorat à l'âge de 25 ans, / 26 ans.
Oui.
C'est ça qui est officiel. Mais malgré ça, vous êtes revenue ensuite sur les bancs des universités, différentes universités justement, pour des formations. Vous avez fait un executive program en comprehensive general management à l'Harvard Business School. Vous avez fait aussi un programme qui s'appelle Women Entrepreneur Program à l'université Stanford.
Oui.
Donc, dans votre tête, un doctorat, c'était pas suffisant?
Non, non, c'est pas ça. C'est que, ça je le dis tout le temps, on finit jamais d'apprendre.
C'est vrai.
Et en fait, juste après mon doctorat, je suis partie aux États-Unis 6 mois, histoire de changer d'air, parce que j'ai vraiment travaillé comme un ermite pendant des années. Et j'ai même travaillé comme hôtesse d'accueil et comme serveuse avec un doctorat. Mon patron n'en revenait pas, mais c'était pour apprendre l'anglais et puis faire autre chose. Ça m'a fait énormément de bien. Et ensuite, je suis revenue à Casa et j'ai travaillé dans une grande banque de la place qui s'appelle aujourd'hui Bank of Africa et à l'époque s'appelait la BMCE. Et donc, au bout de quelques années là-bas, le président Etmane Benjelloun avec son directeur général Brahim Benjelloun Touimi m'ont fait un cadeau. Et ils ont sélectionné un nombre très réduit de collaborateurs pendant quelques années d'affilée pour participer à un programme d'Harvard. C'était comme un mini MBA qui a duré 2 bons mois. Et j'ai eu la chance de participer à ce programme. Et en plus, il fut tellement dense. Et on a fait tellement d'études de cas et tout comme dans un vrai MBA qu'aujourd'hui, on a vraiment le statut de ce qu'on appelle alumni, d'anciens.
Exact.
Ce que n'ont pas généralement les gens qui font de la formation continue d'une semaine ou deux.
Ok.
Et donc voilà, et donc j'ai appris énormément de choses.
Donc c'était pendant 2 mois sur place.
C'était un mois, c'était délocalisé en Égypte à Sharm el-Sheikh.
Ok.
Parce que c'était avec une cohorte spéciale Middle East. Et un mois sur place à Harvard Business School, dans l'internat, on dormait là-bas, etc.
C'était une bonne expérience?
Ah oui, c'était une excellente expérience, ouais. D'abord pour découvrir le système universitaire anglo-saxon que je ne connaissais pas, et puis parce que la méthode DECA a été inventée par Harvard à la base, et donc l'avoir là-bas, c'était pour moi le plus beau des cadeaux. Et puis j'ai énormément appris, même d'un point de vue management et business, quoi.
Absolument. Alors, donc, début de carrière en banque.
Oui.
Visiblement, très bonne expérience.
Oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait switcher aux études supérieures, c'est-à-dire devenir manager, directrice générale d'un groupe d'école supérieure?
En fait, j'ai passé 8 ans à la BMCE, donc aujourd'hui Bank of Africa. Et puis au bout de 8 ans, j'ai discuté avec mon père, car mon père est le fondateur de HEM.
D'accord.
Et donc, on a échangé et puis on s'est dit, tiens, je vais venir travailler à ses côtés, puisque j'ai mon doctorat en poche et que, pour le coup, là, il me servira, puisque je serai dans le monde de l'enseignement.
Ouais.
Et quoique, il m'a servi même à la banque. Et là, on a eu une discussion et je suis venue le 1er septembre 2008 à HEM. Et je n'ai jamais, absolument jamais travaillé avec mon père, ne serait-ce qu'un seul jour. Parce que 6 mois avant, alors que j'avais déjà déposé ma démission à la BMCE, mon père avait été appelé par Sa Majesté pour diriger le Conseil de la concurrence à Rabat.
D'accord.
Et donc, il a évidemment dit oui. Et donc, quand je suis arrivée, il n'était plus là.
D'accord. Donc, justement, ma question allait être, ça fait quoi de travailler aux côtés de son père? Donc, vous n'avez jamais eu à travailler ensemble?
Je n'ai jamais eu à travailler avec lui parce que le destin en a fait autrement.
Ouais.
Et je me rappelle très bien, quand il a été nommé, alors que moi, j'avais déjà démissionné de la banque, il m'a appelé, moi et mon collègue Hassan Sayer, qui est aujourd'hui également directeur général de HEM. Il nous a assis dans son salon. Il a dit, je vous confie mon bébé, je vous confie l'école. Moi, je m'en vais. Je reste président, mais je m'en vais. Et il nous a confié la co-signature à tous les deux. Et il a fallu diriger une institution comme HEM, qui n'était quand même pas toute petite, avec un monsieur que je ne connaissais absolument pas, et il fallait qu'on co-signe absolument tout, et tous les chèques, et donc on devrait être d'accord sur n'importe quel petit dirham dépensé.
Ouais.
Et je peux vous dire que c'est un pari qu'a pris mon père, ça aurait pu être l'enfer. Mais alhamdoulilah, ça a été le paradis.
Oui, parce que une bonne entente.
Ouais, très bien entendu avec cet homme. Et ça fait plus de 13 ans maintenant que ça dure, hormis LCI Afrique, hein, qui s'est rajouté des années plus tard. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc, je n'ai jamais réellement travaillé aux côtés de mon père.
Mmh. Mais travailler à l'ombre de son père, en quelque sorte, avec l'ombre de son père.
Absolument, parce que quand vous êtes quand même la fille d'un monsieur qui s'appelle Abdel Ibn Amour, et pour les gens qui le connaissent, il est quand même assez charismatique, c'est pas évident pour lui de partir d'un seul coup et moi d'arriver, mm-hmm. en ayant ce stéréotype, cette image de la fille d'eux, qui n'est là que parce qu'elle est la fille d'eux et pas parce qu'elle le mérite réellement. Et donc j'ai dû, pendant un certain nombre d'années, me faire assez petite, et montrer que, un, j'avais un prénom, et que, deux, j'avais aussi les diplômes qu'il faut, et que, trois, encore une fois, le travail, j'ai essayé modestement de montrer que j'étais aussi moi-même compétente. Et alhamdoulilah, ça a marché.
Mais vous savez, Yasmine, vous auriez pu arriver avec pas ces questions en tête, parce que, rappelons-le, vous êtes arrivée quand même avec un doctorat en poche. C'est pas rien.
Oui, et pourtant, ça m'a donné ma légitimité, ouais. Ça c'est sûr.
Ouais.
Mais après... Les études, même si c'est une femme à la tête de d'école qui le dit, les études c'est très important, mais ça ne suffit pas. J'aurais pu avoir un doctorat en main et par exemple être une très mauvaise enseignante. Ça existe.
Bien sûr.
Or mon père, quand je suis arrivée, le premier conseil qu'il m'a donné, il m'a dit tu rentres en classe et tu enseignes, parce qu'on ne peut pas diriger une école. Et parler à des professeurs sans avoir au moins vécu un certain nombre d'années ce qu'ils font.
Absolument.
Et donc, encore une fois, j'ai travaillé mes cours et j'espère avoir été une enseignante correcte. Et voilà, donc oui, heureusement que le doctorat était là et m'a donné ma légitimité, c'était le point de départ, mais après, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'imposer par la compétence et par aussi la bonne gestion des ressources, du capital humain, une main de fer dans un gant de velours. Il y a beaucoup de choses parce que nous dirigeons l'école, mais nous dirigeons l'entreprise qu'il y a derrière.
Absolument, donc, parce que c'est une entreprise derrière, vous avez raison.
Ah oui, complètement,
ouais,
et ça, à part entière.
Ouais. Alors Yasmine Benhamoud, vous avez également suivi le programme Women Entrepreneur Program à Stanford University Graduate School of Business.
Oui.
Ça, c'était pendant que vous étiez à HEM déjà ?
Oui, exactement. C'était pendant que je suis à HEM. J'ai fait ça juste avant la pandémie. Et encore une fois, je crois que moi, j'ai de la chance avec les banques. C'est la BMCI qui, un beau matin, m'a appelée pour me dire aussi que j'avais été choisie pour participer à ce séminaire d'une semaine sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Et donc, j'ai passé une bonne semaine. Là, c'était beaucoup plus court qu'à Harvard, mais c'était quand même assez inoubliable parce que c'était quand même Stanford.
Exact.
Et je me disais, c'est quand même pas mal dans une vie de pouvoir cocher deux cages, Harvard et Stanford,
exact.
En dehors de celles que j'avais déjà cochées. Donc, j'étais quand même très contente et très reconnaissante. Et donc voilà, je suis partie une semaine, nous étions une quarantaine de femmes du monde entier, des femmes que j'ai appris à connaître, des femmes extraordinaires. Et puis pareil, on a fait un certain nombre d'exercices, de cas, etc. pendant une bonne semaine, c'était vraiment très sympa.
Alors Yasmine, ça c'est le côté pro.
Oui.
Côté privé, ça donne quoi ?
Ah, le côté privé, ce ne fut pas un long fleuve tranquille.
Non.
Non, ce ne fut pas un long fleuve tranquille parce que quand je suis arrivée d'abord mes 8 ans à la banque, c'était un long fleuve tranquille. Je suis mariée, j'ai fait mes deux enfants, alhamdoulilah, tout allait bien. Dans ces cas-là, on dit juste alhamdoulilah.
Mm-hmm.
Et ensuite, je suis arrivée d'abord à HEM en 2008. Mes enfants étaient tout petits. Je crois que l'un avait 8 mois et l'autre avait 16 mois de plus parce qu'ils ont très peu d'années, 2 mois de différence. Donc j'avais deux enfants en très très bas âge. Et déjà reprendre le flambeau avec deux enfants en très bas âge, ce fut très très dur.
Émotionnellement, j'imagine, oui.
Ah oui, mais une organisation, mais de choc. un équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui devait être infaillible, ouais. parce qu'il faut être une bonne épouse, une bonne mère, et puis être épanouie soi-même.
Ouais. Et si je peux me permettre, il faut être une bonne épouse, une bonne mère pour mériter aussi d'être, de travailler de façon épanouie à l'extérieur.
Exactement.
C'est comme exactement. Un laisser-passer en quelque sorte.
Absolument. Si on n'est pas, si on n'a pas un certain bien-être soi-même, on ne peut être bien ni dans son travail, ni avec son conjoint quand on en a un, ni avec ses enfants, ni avec personne. Donc ça, et ça encore une fois, je vais citer ma mère qui m'a toujours dit, Yasmine, sois un tout petit peu égoïste, pas beaucoup, mais un tout petit peu, ça te servira. Et là, je l'ai toujours écoutée pour ça.
Ouais, ouais.
Et ça me donne du boost pour pouvoir booster les autres.
Mais quand vous dites que ce n'était pas un long fleuve tranquille.
Alors, quand je dis que ce n'est pas un long fleuve tranquille, d'abord, bon, l'équilibre vie privée-vie pro au début avec les enfants en bas âge et le nouveau job, c'était vraiment très dur. Ça a duré quelques années. Et puis, en 2010, c'est-à-dire à peine 2 années après mon intégration à HEM avec, je le rappelle, les enfants en bas âge, mon mari... a eu une maladie, et pour la nommer, c'était un cancer de l'œil.
D'accord.
Quelque chose de très rare. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment il a pu attraper ça. Et donc, bref, je vous épargne les détails, les médecins, etc., opération et tout, et il a perdu un œil. Mes enfants n'étaient pas au courant qu'ils ne voyaient plus d'un œil. Ils étaient beaucoup trop jeunes pour expliquer ce genre de choses. Puis, nous avons fait pendant 5 ans un suivi médical. Et la 5e année, qui devait être l'année en fait où il allait s'en sortir, eh bien, ce qu'il avait, la satanée chose qu'il avait chopée à l'œil, est partie au foie.
D'accord.
Et donc, il a chopé un cancer du foie. Je vous épargne encore les détails, une année de traitement, etc. Et il est décédé le jour de Noël, le 25 décembre 2015. Et donc, mes enfants avaient respectivement 8 ans et demi et même pas 10 ans. Et donc vous imaginez cette épreuve avec des enfants tout petits plus le travail, c'était à ce moment-là 5-6 ans où c'était vraiment pas un long fleuve tranquille.
Oui, oui.
Donc voilà.
Alors justement, si je peux me permettre, Yasmine, comment vous avez fait, comment vous avez géré à ce moment-là, entre les examens, les traitements du conjoint, gérer les enfants, la carrière, le boulot, enfin gérer tout ça, gérer cette situation pendant plusieurs années, les hauts et les bas, comment vous vous êtes débrouillée au quotidien?
Alors, bon, d'abord, effectivement, il y avait beaucoup d'allées et venues, de voyages, etc., mais j'arrivais à m'organiser. D'un point de vue, sachant que je suis restée très présente à l'école, hein, il y avait même des gens qui n'étaient même pas au courant. Hein.
D'accord.
Je ne me suis jamais déclarée. La vie au travail est restée, je dirais, presque normale.
Pro.
Vraiment, pro. Oui, très pro. À côté de ça,
c'est important. Vous pensez que c'est important, Yasmine, justement, c'est pour se protéger aussi, pour avoir une bulle.
C'est important à deux égards. La première, c'est que je voulais donner aussi l'exemple en disant que quand il nous arrive quelque chose, on se laisse pas abattre et on continue à résister. Et la deuxième, c'est que venir au travail était aussi ma bulle. Ça me changeait, ça me faisait voir autre chose, ça me faisait un peu oublier, même si évidemment je n'oubliais pas.
Bien sûr.
Donc ça, c'est à titre professionnel. À titre personnel, et ça vraiment, je n'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette pas du tout, c'est que je n'ai jamais rien caché à mes enfants. Et je vais être très crue, hein, si vous permettez.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait le deuil et j'aimerais partager ça avec d'autres femmes, si ça arrive à d'autres. C'est que mes enfants, pour la première partie, les 5 premières années, je leur ai pas dit grand-chose parce que je pensais pas que c'était aussi grave et ils étaient petits. Mais à partir du moment où ils avaient 7-8 ans, ils voyaient que leur papa et moi voyagions assez souvent, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc dès le départ, je leur ai dit la vérité, j'ai dit « papa est très malade, il a, comme on dit, une grosse chibouba dans le foie ». Et première des choses que m'a dit mon fils aîné, qui avait à l'époque 7-8 ans, parce que la maladie a duré plus d'un an, il me dit « Maman, est-ce que papa va mourir ?» Et j'ai jamais dit non, parce que je ne savais pas. J'ai dit « Écoute, je ne sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on fait de notre mieux pour le guérir. » les meilleurs médecins du monde entier. Bien évidemment, j'ai exagéré.
Oui.
Je disais, voilà, on va tout faire pour que papa guérisse. Et donc, dès le début, j'ai été lucide et claire avec mes enfants. Et donc, ils suivaient le processus, pas non plus en détail, parce que j'allais pas non plus les déprimer, mais ils suivaient, on va dire, entre de loin et entre de proche, c'est pas
ouais,
au milieu.
D'accord ?
Et donc, ils me voyaient partir, venir, et quand ils voyaient que ça s'aggravait, ils le voyaient un petit peu, ils me voyaient forte, ils me voyaient aussi peut-être m'affaiblir de temps en temps, parce qu'il est important qu'ils voient qu'on est un être humain, ça
bien
c'est
sûr.
Un psychologue qui me l'a dit. Et parallèlement, moi, je suis partie voir un psychologue pendant la maladie. J'ai pas attendu l'après.
Oui.
Pendant. Ça aussi, c'est un bon conseil. C'est-à-dire que ça m'a donné des forces pendant. Ça m'a permis de voir comment m'adresser à mes enfants, etc.
C'est important, complètement.
Oui, c'est important, oui. Exactement. Ce qui fait que quand le jour J du décès est arrivé, je ne vais pas dire qu'on était préparé parce qu'on ne l'est jamais, mais on était quand même quelque part préparé et je n'avais donné d'espoir à personne ou d'espoir non fondé à personne ni à moi-même.
C'est ça.
Et donc,
ça,
mes
c'était
enfants,
en 2015.
C'était en... Ouais, il est parti le jour de Noël.
Ouais.
Bon, enfin, moi, je ne fête pas Noël, mais c'est quand même le jour de Noël.
De Noël, exactement.
Donc, j'avais préparé le truc et, là, j'en suis... C'est une de mes plus grandes fiertés.
Mm-hmm.
C'est d'avoir sauvé, on va dire psychologiquement, mes enfants.
Mm.
Et il est décédé un 25 décembre, je vous assure. Alors, j'ai plus le calendrier en tête, mais le lundi suivant, qui était un 3 ou 4 ou 5 janvier, je ne m'en rappelle plus.
Ils sont rentrés à l'école.
Les enfants étaient à l'école, j'étais au bureau.
Mm.
Parce que dans ces cas-là, je vous le dis, c'est binaire. C'est soit on continue à vivre, soit on s'éteint à petit feu.
Ouais.
Et moi, il y avait no brainer, comme diraient les Canadiens. Je voulais que nous continuions à vivre. Et ça ne veut pas dire oublier, loin de là. Loin de là, leur papa, on en parle jusqu'à aujourd'hui à table. Il n'y a pas de tabou. Je suis tout le temps en train de leur dire « Mais tu te rappelles, papa disait ça. Arrête de faire ça, c'est pas bien.
Oui. »
Ou bien « Ah, là, tu ressembles vraiment à ton papa. Tu as sa qualité.
Mmh. »
etc. Donc, il est avec nous. Mais ça n'empêche pas de continuer à vivre. Et faire le deuil, c'est un cycle qui peut être plus long pour certains, plus court pour d'autres. Mais il est important, au bout du compte, de le faire pour continuer à vivre pour soi, pour ses enfants et au nom de la vie, tout simplement.
Vous avez été un peu critiquée, Yasmine, pendant cette période, parce que culturellement, on s'attend à ce que la femme qui perd son mari, son époux, reste à la maison pendant longtemps, ne travaille pas, le pleure pendant longtemps. Vous avez, dans la tête des gens, peut-être brûlé certaines étapes ?
Oui, c'est sûr que j'en ai brûlé.
Ouais.
Je l'ai pleuré beaucoup, mais je n'avais pas besoin de le pleurer ni en public, ni devant mes collègues. Je le pleurais tranquillement chez moi.
Mmh.
Je trouve que c'est quelque chose de très personnel.
Et de digne aussi.
Oui, d'être digne. Une fois que j'étais en dehors de chez moi, ça fit.
Ouais.
Et alors, peut-être que des gens ont dit des choses derrière mon dos, j'en sais rien. mais en tout cas, au travail, je pense qu'au contraire, les gens étaient plutôt, je veux dire, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais les gens se disaient quand même, elle a du courage.
Mm.
Pour mes enfants, bah, ça leur faisait du bien que la vie reprenne.
Mm-hmm.
Et puis voilà, et puis honnêtement, je m'en fichais de ce que les autres pouvaient penser. Dans ces cas-là, vous faites ce que votre cœur vous dit, point. Je crois que la vie est assez dure pour ne pas se rajouter ce que les autres pensent, ou la hadi, ou la hada.
Absolument. Yasmine Menamour, vous savez, j'ai adoré la simplicité de cette discussion. la spontanéité de cet échange féminin. Vous êtes la présidente de LCI Éducation Afrique, directrice générale de HEM. Et derrière ces titres, eh bien, il y a une mère et il y a une femme qui s'est battue pour son épaule, l'arhamou, et qui se bat pour ses enfants. Et chapeau, Lella.
Est-ce que je peux rajouter quelque
Bien
chose ?
Bien sûr, allez-y.
Juste pour vous dire que la vie, elle continue. Je me suis remariée pendant le confinement.
Mbarkoum Saoud.
Je ne m'y attendais pas du tout.
Ouais.
Parce que pour moi, mon mari, l'arhamo, était tellement extraordinaire qu'il était mais vraiment irremplaçable dans ma tête.
L'arhamo.
Et Sidi Rabbi m'a envoyé quelqu'un d'autre.
Et l'équilibre,
extraordinaire aussi.
Et l'équilibre s'est bien instauré ?
C'est très bien instauré, mais il habite à Marrakech, donc c'est tant mieux.
Oui.
Parce qu'on n'est pas les uns sur les autres.
C'est ça.
D'autant plus qu'il a des enfants aussi. Et mes enfants, je pense, l'apprécient. Enfin, je ne pense pas, je le sais qu'il apprécie. Oui. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, tout se passe bien.
Alhamdoulilah, Allah ykmel alik bil khair, Yasmine.
Amin.
C'était un plaisir d'échanger avec vous.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Et au plaisir de vous rencontrer prochainement, j'espère.
Au plaisir et merci encore pour l'invitation. C'était une discussion très agréable.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.